Chapitre 23. Je m'acquitte bien de ma tâche. Je suis habitué depuis toujours à me tenir sur mes gardes et à endurer la méchanceté. Au moins, celle de la Mène Sahib n'est pas dirigée contre moi personnellement. Meïna me traite bien. Elle ne m'a battue qu'une seule fois, le premier jour, quand elle m'a surprise à faire mes besoins dans le jardin de la cuisine. Elle m'a traité avec mépris de bouseuse. Mais comment aurais-je pu connaître l'existence d'une pièce spéciale de la maison, appelée WC, où l'on va se soulager? Les autres esclaves se méfient de moi, la préférée, et ils évitent de me parler. J'ai peu l'occasion de les croiser. Je passe mes nuits dans la chambre de la Mène Sahib et non dans le dortoir commun. La solitude est bien dure après avoir goûté à l'amitié de Mivegan. Ce qui me fait le plus souffrir est de ne pas pouvoir chanter. J'ai essayé auprès de la vieille dame, avec l'espoir secret de la soigner par la magie de la musique. Loin de se calmer, la Mène Sahib a glapi en retour comme un chacal, dardant sur moi son regard dément. J'ai de brefs moments de répit, heureusement, quand elle s'assoupit durant la journée. Je cours alors à la cuisine. Je trie ou j'épluche les légumes que me confie Meïna. Mon bonheur est d'accomplir ses tâches dans le jardin, auprès du Ménat, en chantant. Il m'écoute, la tête penchée sur le côté, s'arrachant le duvet du cou d'un air pensif. Quand je me tais, il m'offre à son tour quelques pièces de son répertoire. Il imite le grincement du robinet d'eau courante, le raclement des pots en cuivre contre l'évier de pierre, les coups du bâton dans le mortier des épices, et bien sûr, les sifflements d'autres oiseaux du jardin. Des êtres humains, il sait reproduire l'appel des vendeurs ambulants et un rire qui me fait sursauter. C'est, à la perfection, le ricanement de la Mène Sahib. Ce jour-là, le Ménat imite deux sons que je n'ai pas encore eu l'occasion d'entendre, le brombissement d'une voiture et le claquement d'une portière. Meïna apparaît sur le seuil de la cuisine. « Ma fille, laisse les haricots. Va cueillir du jasmin et des giroflées et tresse une guirlande. » J'obéis sans poser de questions. Meïna s'affaire de façon inhabituelle dans la cuisine. L'oiseau semble lui avoir annoncé, aussi sûrement qu'un coup de téléphone, l'événement qui se produit en effet quelques heures plus tard, l'arrivée du maître. Quand la vraie portière claque le soir même, la maison est étincelante, décorée de fleurs fraîches. L'air embaume les épices grillées, le riz blanc, les galettes et les plats de légumes préparés par Meïna. Je n'ai pas encore rencontré Ori chez Liane. Quand je suis arrivée ici, il y a quelques semaines, il venait de partir en voyage. Je ne tarde pas à faire sa connaissance. La première chose qu'il fait est de rendre visite à sa mère. Je l'observe du coin de l'œil, tandis qu'il lui touche les pieds et lui embrasse le front avec respect. Il rajuste un coussin sur le fauteuil à bascule, défait un paquet enveloppé dans du papier de soie et pose sur les épaules de sa mère un châle de cachemire. L'usurier est un homme déjà vieux. Ses cheveux rares sont plaqués sur le crâne. La peau de son visage est boursouflée et tachée de plaques noires comme les chapatis de Meïna. Mais il est très bien habillé, les doigts et les poignets couverts de bijoux d'or. Il quitte la pièce sans m'avoir accordé un seul regard. Comment un homme peut-il se comporter si noblement en tant que fils et mépriser autant ceux qui le servent?